RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie et le Japon conviennent d'accroître leur aide à la Palestine ». Le président indonésien Jokowi a souligné la neutralité de l'armée de la police indonésienne était absolue. La ministre des Finances a dit que la hausse des importations soutenait le secteur de production. Le vice-président indonésien a dit que le gouvernement évaluait l'impact de la guerre commerciale des États-Unis et de la Chine. Le consulat général de la République d'Indonésie, ou KJRI, à Francfort, ouvre un cours de langue indonésienne. Voici le journal complet. Le gouvernement de l'Indonésie et du Japon ont convenu d'augmenter l'aide aux Palestiniens. Cet accord a été conclu lors d'une réunion bilatérale entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue japonaise, Taro Kono, à Jakarta, lundi 25 juin. Dans un communiqué de presse conjoint, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que les deux pays comprenaient l'importance des efforts visant à encourager la coopération sud-sud et triangulaire pour renforcer le soutien au développement économique en Palestine. L'un d'entre eux est une réunion de coopération entre les pays d'Asie de l'Est pour le développement de la Palestine ou la conférence sur la coopération entre les pays d'Asie de l'Est pour le développement palestinien, ou CEAPAD.
Minister Kono and I also agreed on the importance to continue to increase capacity.
Le ministre Kono et moi-même avons également convenu de l'importance d'améliorer le renforcement des capacités et le développement pour soutenir la Palestine dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire dont nous discuterons plus en détail lors de la prochaine CEAPAD à Bangkok. Donc, le ministre Kono et moi nous rendrons à Bangkok pour la troisième réunion de la CEAPAD à Bangkok le 27 juin. La troisième, la conférence sur la coopération entre les pays d'Asie de l'Est pour le développement palestinien, est une réunion ministérielle des pays d'Asie de l'Est composée de 10 membres de l'ASEAN, du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud et d'autres partenaires de développement pour la Palestine. À ce jour, 11 ministres des pays de l'Asie de l'Est et du Moyen-Orient assisteront à la réunion tenue des 26 et 27 juin à Bangkok, en Thaïlande. La réunion, qui sera ouverte par le premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, est prévue pour discuter des différents programmes d'aide pour la Palestine qui seront développées dans le plan de travail du CEAPAD 2019 à 2021 adapté aux besoins de la Palestine et aux avantages des pays membres du CEAPAD. Le président Joko Widodo a expliqué que la neutralité de l'armée nationale indonésienne, ou TNI, et de la police nationale indonésienne, ou Polri, lors des élections des chefs régionaux était absolue. Le président a transmis au chef de Polri, au commandant de TNI et au chef Dubin pour maintenir toujours la neutralité dans la fête démocratique. Le président Joko Widodo a également demandé à toutes les sociétés indonésiennes de superviser conjointement l'ordre de mise en œuvre des élections régionales et générales. Il continue de rappeler au public de maintenir l'harmonie et l'unité après l'élection des chefs régionaux et des élections générales. Il espère que la société ne sera pas hostile les uns aux autres, si bien que cela sacrifie l'unité de la nation et de l'État à cause des différences de choix politiques. La troisième nouvelle, la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que les importations de mai 2018 étaient nécessaires pour soutenir les investissements dans le secteur de la production. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse sur l'évolution du budget de l'État de 2018 à Jakarta lundi que les importations comprenaient principalement des biens d'équipement et des matières premières pour soutenir les activités de production dans divers secteurs économiques. Selon le ministre, si les importations étaient réduites à court terme, les investissements perturberont la performance des investissements et passeront la croissance économique. Après tout, le gouvernement est déterminé à construire l'industrie nationale axée sur les matières premières pour réduire les importations. La ministre Sri Mulyani a ajouté qu'en outre, le renforcement de la structure de la compétitivité antérieure était également très important pour accroître les résultats à l'exportation et pour réduire son déficit commercial. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que le gouvernement indonésien étudiait l'impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en Indonésie. En effet, cette guerre commerciale entrera en vigueur le mois prochain. C'était à déclarer par le vice-président, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine aurait un impact sur l'Indonésie. Auparavant, Darmin Nasution, ministre coordinateur des affaires économiques, a déclaré que l'amélioration de la structure des exportations nationales était importante pour surmonter l'impact des guerres commerciales potentielles engagées par les pays développés. Nous devons élaborer des politiques industrielles ou des ressources naturelles pour améliorer nos exportations, a déclaré par Darmin Nasution à Jakarta jeudi. Le ministre Darmin Nasution s'assure que l'Indonésie doit chercher les opportunités de la guerre commerciale et ne peut pas se concentrer sur la performance commerciale nationale ne perturbe pas la croissance économique en global. La dernière nouvelle, c'est le consulat général de la République d'Indonésie, ou KJRI, à Francfort ouvre un cours de la langue indonésienne pour les locuteurs des Allemands. Comme cité dans un communiqué de presse reçu à Jakarta mardi, le consulat général de la République d'Indonésie à Francfort a organisé cette année un cours indonésien de niveau A2 dans le bâtiment du consulat général de la République d'Indonésie à Francfort. Classe A2, qui est la continuation de la classe de niveau A1, tenue tous les vendredis de 18h à 20h au consulat général d'Indonésie à Francfort. Le cours indonésien au consulat général d'Indonésie à Francfort utilise le matériel pédagogique de la langue indonésienne pour les locuteurs étrangers indonésiens, mon ami Indonésie, du ministère de l'Éducation et de la Culture en 2016. Ce livre est développé avec une base de texte afin que les élèves puissent développer les compétences de leur langue en quatre compétences, à savoir la compréhension orale et la compréhension écrite, la réception orale et la réception écrite. Le programme de cure indonésien est un effort du Consulat général d'Indonésie à Francfort pour introduire la langue et la culture de l'Indonésie au peuple allemand. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie. Voici le commentaire intitulé « Le rôle de la Turquie dans le conflit en Syrie » après Recep Tayyip Erdogan a été réélu. La Turquie sera à nouveau dirigée par Recep Tayyip Erdogan. Après être devenu un dirigeant dans un pays qui est situé entre l'Asie et l'Europe depuis 15 ans, Erdogan a encore gagné à l'élection générale qui s'est tenue dimanche 24 juin. Il a été réélu dimanche 24 juin président de la Turquie pour le prochain mandat après avoir remporté la majorité. Plus de 56 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour la présidentielle dans la première fête de la démocratie depuis que la Turquie a changé le système gouvernemental de parlementaire à présidentiel à la suite du référendum de l'année dernière. Aux élections précédentes, Erdogan a également vaincu ses rivaux, y compris le principal opposant politique Muharrem İnce. D'après l'agence de presse étatique Anadolu, Erdogan est arrivé en tête de la présidentielle avec un score de 52,5%, tandis que Muharrem İnce gagnait 31,5%. İnce est un candidat pour le président turc qui représente le groupe laïque du Parti républicain du peuple. Dans son discours de victoire, Erdogan a promis de continuer ses efforts pour libérer la Syrie et également de retourner les réfugiés qui sont maintenant déplacés dans un certain nombre de pays, y compris l'Europe occidentale. La première déclaration politique non seulement encourage ses électeurs, mais devient aussi un signe de la politique étrangère d'Erdogan. Particulièrement, préoccupé par le conflit en Syrie, cela a tué beaucoup de gens et a fait fuir beaucoup de gens pour chercher la sécurité à l'étranger. L'affirmation d'Erdogan sera certainement l'attention de divers pays qui sont maintenant impliqués dans le conflit syrien, tels que les États-Unis, la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les pays qui soutiennent le gouvernement du président Assad en Syrie, à savoir la Russie et l'Iran, ont déjà des plans aux futures mesures d'Erdogan. La Turquie sous Erdogan a l'avenir continué à essayer de se faire un pays de plus en plus compté dans les efforts pour résoudre le conflit en Syrie. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 27 juin. On commence cette édition par le 27 juin 1947. Le général Sudirman a été nommé par le premier président Sukarno en tant que commandant de l'armée nationale indonésienne à Yogyakarta. Le général Sudirman est un héros national de l'Indonésie qui a combattu pendant la Révolution nationale indonésienne. Dans l'histoire de la lutte de la République d'Indonésie, il a été enregistré comme le premier et le plus jeune commandant et le général de la République d'Indonésie. À l'âge de 31 ans, Sudirman a été devenu général. Malgré la tuberculose sévère, il a continué à se battre dans la défense de l'indépendance de l'Indonésie. En 1950, il est mort à cause de la tuberculose. Il a été enterré dans le cimetière des héros de l'État Kusuma à Semaki, Yogyakarta. Puis, le 27 juin 1954, la centrale nucléaire d'Obninsk en Union soviétique a été devenue la première centrale nucléaire du monde produisant de l'électricité de 5 kW. Deux ans plus tard, les centrales nucléaires ont été construites et exploitées avec différentes fonctions au Royaume-Uni. En France, le premier centre d'exploitation nucléaire a été exploité et a démarré sa production à Chinon en 1963. Le modèle de technologie nucléaire est alors devenu la tendance pour l'énergie dans le monde entier, bien que le coût de l'utilisation et de la production devienne cher dans les années 1970 à 1980. Enfin, la catastrophe de Tchernobyl en 1986 a fait que les humains ont repensé l'utilisation du nucléaire comme générateur d'énergie. On termine l'histoire d'aujourd'hui avec le 27 juin 1993. Les États-Unis ont attaqué Bagdad. Le 27 juin 1993, en utilisant 23 missiles à longue portée, les États-Unis ont attaqué la ville de Bagdad et ses environs. Cette attaque a été lancée parce que les États-Unis ont accusé l'implication du régime de Saddam dans la tentative d'assassinat du président des États-Unis à cette époque, George Bush Senior, lors d'une visite au Koweït en avril dans la même année. Dans cette attaque, 6 civils irakiens ont été tués et un bureau de l'agence de sécurité irakienne a été endommagé. Chers auditeurs, voilà l'histoire d'aujourd'hui cette fois. Au revoir!
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Monde Indonésie.
Indonésiaku, Monde Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Le ministère de l'Agriculture publie des variétés de riz gogo qui a la haute teneur ». Le ministère indonésien de l'Agriculture a récemment publié de nouvelles variétés de riz pluvial à rendement élevé et à culture de courte durée, destinées à l'agriculture sur des terres sèches appelées « riz inbrida gogo » ou « inpago ». Le riz gogo ou le riz sec est du riz cultivé dans les champs et les collines et non dans les rizières qui nécessitent beaucoup d'eau. Le professeur Dr. Dedi Nur Syamsi, directeur du Centre indonésien pour la recherche et le développement des terres agricoles, a déclaré dimanche à Jakarta que le riz gogo des nouvelles variétés a permis au ministère de l'Agriculture de faire l'Indonésie comme grande de nourriture du monde en 2045. à travers de l'utilisation de terres arides, de terres marécageuses et de terres irriguées. Il a ajouté que toutes les terres potentielles sont prêtes à être déployées car des variétés supérieures dans chaque type de terre ont été disponibles. Auparavant, les agriculteurs indonésiens dépendaient uniquement des terres irriguées. Selon Dedi, le potentiel de terres sèches pour le développement du riz gogo est très important. Sur la superficie de 80 millions d'hectares de terres sèches, peut accueillir jusqu'à 24,7 millions d'hectares de riz pluvial. La terre est divisée en terres arides de 21 millions d'hectares et de terres sèches, le climat sec, de 3,7 millions d'hectares. Il a ajouté que les résultats de l'échec de l'Agence pour la recherche et le développement agricole, le riz peut être récolté avec le rendement de 7 à 10 tonnes de riz par hectare à l'âge de 110 jours. Dedi est sûr qu'avec la production de 4 tonnes de riz par hectare, l'Indonésie a un surplus de nourriture. Selon Syahroni, directeur de l'Institut d'agroécologie de l'Indonésie, la présence de variétés de riz à rendement élevé et à courte durée de vie a brisé la conviction que l'objectif des greniers alimentaires mondiaux ne pouvait être réalisé qu'à partir de riz irrigué. Syahroni a dit « Des champs de riz étaient un espoir pour l'Indonésie. Cette variété de riz ne nécessite pas beaucoup d'eau et peut être plantée n'importe où. » Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Chers auditeurs, voici donc le rappel de titre de l'actualité. L'Indonésie et le Japon conviennent d'accroître leur aide à la Palestine. Le président indonésien, Jokowi, a souligné la neutralité de l'armée de la police indonésienne était absolue. La ministre des Finances a dit que la hausse des importations soutenait le secteur de production. Le vice-président indonésien a dit que le gouvernement évaluait l'impact de la guerre commerciale des États-Unis et de la Chine. Le consulat général de la République d'Indonésie, ou KJRI, à Francfort, ouvre un cours de langue indonésienne. C'était le rappel de titre de l'actualité pour ce soir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
you're as bright as the sun. We deserve.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est un temps pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonésie.
Bonsoir, serviteurs, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter la nourriture typique de Ponorogo, l'Est de Java, la brochette de Kopok. Restez à l'écoute. Serviteurs, parlant de la nourriture typique à Ponorogo, d'une des régions à Java-Est, le satay Ponorogo sera directement imaginé. La popularité du satay de Ponorogo est bien connue jusqu'à d'autres régions en Indonésie. Ponorogo a aussi un autre satay typique, à savoir le satay Kopok. Le satay Kopok a beaucoup de noms. Certaines personnes l'appellent blended ou malong. Blended vient de la langue javanaise qui décrit la boue avec une texture lisse. On l'appelle comme ça parce que le satay est similaire à la représentation de blended lui-même, tandis que kopok signifie le mucus de l'oreille. Parce que le plat de satay kopok est considéré comme similaire avec kopok ou le mucus de l'oreille. Même si ce plat n'est pas très intéressant, si vous goûtez le satay kopok, vous en imaginerez toujours la délicatesse. Le satay kopok est fait de viande de poulet. La différence avec le satay de Ponorogo est sur les tranches de sa viande qui n'est pas trop épaisse. Les ingrédients du satay sont un mélange entre la sauce aux arachides et le lait de coco, mais certaines personnes n'utilisent que du lait de coco. Ces ingrédients font que la texture de sa nourriture produit du mucus. Le satay de kopok est habituellement servi avec le légume de lodeh qui contient du loto, du tofu, du tempeh et le bouillon jaune. Outre le lodeh, le satay kopok peut également être consommé avec soto. Une portion de soto est habituellement servie avec deux brochettes de satay kopok. La combinaison entre le bouillon de soto et le satay produit un goût unique et délicieux. Le satay de kopok peut également être consommé sans n'importe quelle nourriture. Selon la population locale, le satay kopok existe depuis la colonisation hollandaise. Il croit, quand le colonel néerlandais, ce satay unique a été vendu. Malheureusement, le satay de kopok était difficile à trouver maintenant. Bien que ce soit difficile, le satay kopok est vendu par quelques vendeurs. Pour goûter la nourriture typique de Ponorogo, vous pouvez le trouver au marché de Pahing, dans le district de Balong, ou au marché de Wage, sous-communauté de Jetis, Ponorogo, Java Central. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia, parlons indonésien, vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est Anak ketiga. Je répète, Anak ketiga. Ou en français, le troisième enfant. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Anak ketiga » ou « La troisième enfant ». Cette conversation a lieu dans le salon de la maison de Joko. Tony est en train de regarder l'album photo de mariage de Joko et Dinda. Et dans cet album, il y a une photo de la famille de Dinda.
Dinda, kamu anak keberapa?
Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi, kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, anak ketiga. Anak ketiga, ou en français, la troisième enfant. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez les répéter après moi. Kamu anak keberapa? Kamu anak keberapa? Qui signifie quel est ton rang dans la fratrie? Aku anak ketiga. Aku anak ketiga. Qui signifie je suis la troisième enfant. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Qui signifie je suis la troisième d'une fratrie de 4. Kakak dan adikku semuanya laki-laki. Kakak dan adikku semuanya laki-laki. Qui signifie tous sont frères. Kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu. Kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu. Qui signifie tu es la seule fille de ta famille. Quand vous voulez savoir quel est le rang de votre ami dans la fratrie, dites kamu anak keberapa. Kamu anak keberapa. Et si vous êtes demandé, répondez en montrant votre rang dans la fratrie et montrez aussi le nombre d'enfants de vos parents. Par exemple, Tony, kamu anak keberapa? Dinda, aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Alors, les parents de Dinda ont 4 enfants. Et si votre ami ne mentionne pas le nombre de ses frères et sœurs et vous voulez toujours le savoir, posez des questions, par exemple, Tony, kamu anak keberapa? Dinda, ketiga. Tony, dari berapa bersaudara? Dinda, 4. Avant de terminer à prendre la langue tunisienne aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Dinda, kamu anak keberapa?
Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi, kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous donner un exercice en utilisant des mots que nous avons déjà appris. L'exercice cette fois est décrivez votre famille. Par exemple, saya mempunyai satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki. Kakak perempuan saya berkacamata. Kakak laki-laki saya berkumis. Kakak perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju merah. Anak kakak laki-laki saya 2 orang. Mereka semua memakai kacamata. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Et merci beaucoup pour votre attention et à demain!
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical, l'une des rubriques de la voix de l'Indonésie, dans laquelle on va vous présenter les chansons indonésiennes. Aujourd'hui, on a déjà préparé les chansons d'un groupe s'appelle Lila. Commençons cette édition en écoutant la chanson intitulée Bernafas Tanpamu. Bernafas Tanpamu, qui signifie respirer sans toi, raconte d'un homme qui s'est séparé de son amant, mais il n'a pas pu l'oublier. Il a toujours un sentiment d'amour et il a besoin d'un peu de temps pour vivre sans son amant. Cette chanson est l'une des chansons les plus célèbres du groupe Lila. Écoutons-la.
Mungkin kau bertanya-tanya arti perhatianku terhadapmu. Pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam gerakku. Akulah serpihan kisah masa lalumu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernafas tanpamu.
Voilà la chanson sans titre Bernafas Tanpamu, chantée par Lila. Lila est un groupe formé le 1er juillet 2007 à Jakarta qui compte 5 membres. Ils sont Naga comme vocaliste, Adinata comme guitariste, Dharma comme claviériste, Denis comme bassiste et Amek comme batteur. Mais en 2013, Amek a été remplacé par son petit frère, Divin. En général, Lila porte la musique alternative pop et rock. Bon, chers auditeurs, la suite, la chanson suivante à écouter s'intitule Magic. Elle est devenue la chanson principale du deuxième album de Lila, intitulé Lebih dari Bintang, qui a été publié en 2013. Magic, en français magie, décrit la personne qui était amoureuse. Il ressent que tout ce que son idole du cœur fait est comme la magie. Alors, chers auditeurs, voici la chanson chantée par Lila, dont le titre est Magic.
Kau hanya tersenyum. It's magic. Ah. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Hey. Semua yang kau berikan, it's magic.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Magic par Lila. Le nom du groupe de Lila est tiré du titre de la chanson d'un groupe préféré des membres, Oasis. Le mot Lila vient aussi de la langue sanskrit, Lila, qui signifie joyeux et énergique. Pour ses membres, le nom Lila reflète la forte relation des personnels de Lila, qui est toujours optimiste et heureux dans la carrière musicale. Bon, chers auditeurs, voilà l'édition du magazine musical d'aujourd'hui sur le groupe Lila. Pour la terminer, je vous donne deux chansons de Lila s'intitule Gak Romantis, ou en français Tu n'es pas romantique et Mantan Kekasihku, ou en français Mon ex-petite amie. Bonne écoute et à la prochaine!
Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah, janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helah nafas. Mau menjadi udaramu, selalu setia.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Aku terpaksa menangis, aku terpaksa merintih. Cahayaku semakin redup, memilukan. Kau masih bisa ku lihat, suaramu masih ku dengar. Namun kenyataan ini mengharukan. Seseorang di sana telah memilikimu. Aku kan berdosa bila merindukanmu. Oh mantan kekasihku, jangan kau lupakan aku. Bila suatu saat nanti kau
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.